La barge russe. Quotidiennement. Avec Johnny Chief Beck. Sur Jet FM. Ok, maintenant c'est Barge Russe numéro 368. Texte caché plus infrapolitique. Cette barge russe arrive au quai. James C. Scott. Le livre, la domination et les arts de la résistance. James C. Scott, je vous ai déjà fait part de L'œil de l'État ainsi que Homo Domesticus, deux livres qui m'avaient absolument renversé. Donc depuis longtemps, je reprends des idées de Scott, que je tâche d'approfondir, bien sûr. L'expression, par exemple, homodernisme, qui est fréquemment utilisée dans les barges russes, vient de L'œil de l'État. Mais par contre, c'est une expression qui n'est pas de James C. Scott. Je ne sais plus le nom du mec, c'est pas très important pour l'instant. Donc il n'en est pas à l'origine du homodernisme, mais c'est pas de moi. Bref, pour revenir à cet ouvrage, La domination et les arts de la résistance, qui date de 1992, en américain, en anglais, et qui vient d'être édité chez Amsterdam, là, en 2019, aux éditions Amsterdam. Donc, il reprend, aborde les relations du pouvoir avec la réalité. Elle contrôle les masses en formant l'actualité, en disposant les personnes derrière des étiquettes d'individus qui ne contrôlent rien, dans des rôles imposés par les puissants, où leurs intégrations seront alignées au caractère, ou selon le caractère, du quotidien qui leur sera aussi imposé. Pour ce faire, le haut pouvoir a recours, selon James C. Scott, au texte caché. Et là, il y a tout un entretien à la fin. Il a des super idées, James C. Scott, mais il y a des gens qui utilisent ces idées et qui s'en cachent, ils disent. Un peu comme, moi, ça me fait penser à William Burroughs qui a dit « Il est cut-up, c'est moi. » En fait, tout le monde croit que c'est lui. En fait, non, c'est Byron Gazan qui l'a inventé, qui l'a trouvé. Donc, ça m'a fait penser à ça un peu de... Mais bon. C'est le but de la littérature en même temps, hein. C'est faire passer ses idées, ensuite qu'elles soient utilisées. Le plus principal, c'est qu'elles soient utilisées. Le mieux, c'est qu'on ne les pique pas, mais c'est pas possible. Moi-même, dans les barges russes, je pique, je fauche des idées tellement elles sont bonnes. Et, en fait, c'est des idées qu'on a aussi. D'un côté, on les a aussi, ces idées, mais le mec, il a réussi à les écrire, quoi. Et le mec est consacré et il écrit sur un livre que tout le monde peut lire. Donc, pourquoi lui il a eu cette idée et il a pu la mettre sur un livre et moi j'ai eu cette idée et je l'ai pas fait. Bah, donc c'est pour ça. Là il y a des interconnexions qui entrent en jeu. Donc pour ce faire, je reprends le haut pouvoir à recours selon James C. Scott au texte caché où se bâtit le dialogue constant de l'indifférence. Dans le texte caché, l'illogique réelle devient, selon moi, la logique marchande. Donc à présent, on va s'écouter Counting Compson, un album de Richard Pinas, que Richard Pinas avait enregistré. Attendez, je fais des recherches sur Internet, là. Faut que ça marche. Voilà. Pinas. Counting Compson. Et Counting Compson, c'est un mec de Faulkner. C'est de l'auteur. Faulkner, je sais, il apparaît dans plusieurs de ses livres. Et donc, il l'a enregistré avec Stéphane O'Malley. Vous savez, du groupe... j'oublie tout, moi. Du groupe du métal... excellent, quoi. Ça, c'est vraiment du... Je suis pas trop métalleux, même pas du tout, mais ce qu'il fait, lui, ce groupe est excellent, quoi. Stéphane O'Malley. Attends. Sonora, non? Pas Sonora, non. Sonora, c'est un gros groupe de métal de la mort, ça. Comment s'appelle ce groupe? Bon. Oh, bon, à vous, à Sono, voilà, Sono. Excellent, quoi, j'adore. Ils ont fait un concert à Nantes avant le Covid-19, là, juste avant. Juste avant le gros délire, tout le monde reste chez soi, et ben, ils ont fait un truc. Donc, on va s'écouter la première partie du disque. Il y a trois Quentin Compson, il y a un, deux et trois. On va s'écouter le premier, c'est qui fait toute la face numéro 1. Thank you. Scott appelle l'infrapolitique, nouveau terme que j'ai découvert dans ce livre, l'infrapolitique, comme une pierre, la pierre angulaire sur laquelle reposent les fondements politiques. C'est ce que je comprends. Ça fait un peu le sang de l'État. Bon, c'est une interprétation. Le langage donc, de l'infrapolitique serait donc de dissimuler le pouvoir. Toujours interprétation. Donc, je pense que c'est une bonne interprétation. Tout relâchement de la surveillance et des punitions et le tirage au flanc menace de se transformer en grève déclarée. Scott avait écrit tout un truc aussi sur les gilets jaunes. Il est très très intéressé par tous ces mouvements de foule, le pouvoir du contrôle avec un grand C. Je serais pas étonné qu'il écrive un livre sur Deleuze et le contrôle. Tous ses livres le sont. Donc, sur le contrôle, c'est passionnant ces livres. Donc Scott clôt son livre, d'ailleurs. C'est un gros bouquin, hein, il fait 400 pages, puis c'est faut s'y tenir, quoi, hein, c'est assez compliqué. Hein. Donc Scott clôt son livre par les actes symboliques déterminants, teste si oui ou non tout le système de peur mutuelle qui est engagé dans les textes cachés, va se maintenir ou s'effondrer. Car dans les textes cachés, il y a une propagande. J'en ai fait part dans la barge russe numéro 365 avec le LTI des nazis, le langage par lequel Hitler utilisait des mots pour s'accaparer les foules, et la novlangue d'Orwell. C'est des trucs... Bon, c'est une fiction, hein. Mais c'est ça, quoi. Et c'est des longs travaux. Alors, écoutez la 365, elle est assez intéressante. Enfin, je veux pas me la péter, hein, mais je me la pète parce qu'elle est quand même pas mal. Je me suis encore basé sur plein de livres. Je dis peut-être pas le nom des livres, mais si vous voulez, je pourrais vous les donner. Vous faites un petit message sur Internet à Helmut Schwartz. elmutschwartz@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc je reprends parce que on a perdu le fil. Donc Scott clôt son livre par les actes symboliques déterminants testent si oui ou non tout le système de peur mutuelle qui est engagé dans les textes cachés va se maintenir ou s'effondrer. Il continue au niveau des croyances. De la colère et des rêves politiques, c'est une explosion sociale. Si ce qui en résulte peut ressembler à des moments de folie, c'est peut-être parce que les sans-pouvoir sont rarement présents sur la scène publique, et parce qu'ils ont tant à dire et tant à faire une fois qu'ils y parviennent, qu'ils n'ont pas le temps, la folie les prend. Moi je comprends totalement ça. Donc on a pu le voir avec en résumé, si on peut dire, du livre, un aperçu. Le livre qui se nomme « La domination et les arts de la résistance » de James C. Scott, que le langage est utilisé sur des cultures de l'indifférence. On reste dans le thème de la semaine, l'indifférence. Par les hauts degrés du pouvoir. Ils veulent rendre les gens indifférents les uns des autres, même si je ne sais pas si dans les 10 premiers siècles, dans le premier millénaire de notre histoire, depuis Jesus Christ, you know, même, je ne sais pas si ça existait, si l'entraide était totalement absente, je pense que les empires ont fait beaucoup pour enlever tout ça. L'Empire romain, notamment. Bon, bref, on va pas parler de ça, mais il faut y penser. Ah ouais, il faut... Bon, alors, le mot du langage est devenu un peu dissident, quoi. Un peu, on sait pas ce qui se cache derrière, d'où les trucs connotés. J'ai parlé de j'aime self dans plusieurs barges russes passées, et notamment dans la 365, ainsi que de Klemperer, lui qui fait une étude assez incroyable sur le langage LTI nazi. où il commence à être préférable de ne pas l'utiliser, le mot, pour ne pas avoir de problème ou de soucis envers son voisin, enfin une personne Delta, pour rester dans l'actualité, ou la société. Le langage de surface permet d'échanger sur des détails, dans cette réalité avec un grand R où on se côtoie, on se rencontre, on échange. Donc là, on peut parler de choses sans importance. Mais ça, dans le même temps, il y a la ligne de profondeur des communications intérieures, où se produisent les interconnexions et les rencontres importantes, creuse de plus en plus l'indifférence. Donc, même, en fait, parler de détails, ça va être hyper important, tu vois, mais ça va pas mener. Bézef, quoi, ça va promener. Ouais, on se calme, on va pas, on a compris. Bah oui, moi j'ai compris. Y a le podcast, hein, de toute façon. Dans un entretien, pour finir, le livre se termine par un entretien avec Gilles Chantraine et Olivier Ruchet. Ces derniers soulignent le texte caché inspiré d'autres disciplines comme le langage sémiotique ou le droit. D'ici donc, peut se déduire que gouverner à l'amiable ne peut assurer longévité. Donc je dis à l'amiable parce que dans le droit, c'est souvent comme ça aussi que ça se termine, les affaires se terminent généralement à l'amiable. Pour éviter, parce qu'il y a toujours un perdant, on gagne plus que ce qu'on perd. C'est l'expression pour le droit, en tout cas. Donc à l'amiable, comme ça, les deux gagnent et les deux perdent, quoi. En gros, c'est un peu ça. Alors que le droit bien employé aura raison du langage mal usité. Les possédants, décideurs, puissants, eux, ne parlent pas. Ils sont malins, les mecs, hein. Non, ils parlent pas et on ne sait pas qui c'est. Ils offrent l'image, donc via la télévision généralement, au ridicule. Le ridicule, que le ridicule puisse pénétrer facilement dans la normalité, qui se formalise par des discussions ou des clameurs abondantes et aberrantes sous le toit de la vérité intérieure, qui se formalise aussi, hein. Tout ça. En vrai, faut surtout pas généraliser quand je dis qu'il donne l'image au ridicule, hein, parce qu'il n'y a pas que l'image. L'image n'est pas donnée que au ridicule. Donc là, j'en profite pour. Chacun doit faire le tri. Voilà.
La barge russe. Tous les jours, à 14h, avec Helmut Schwartz et Johnny Tiefbeck.